Chapitre 6. Le voyage dans l'autobus. C'est bizarre parce que je ne reconnais rien. Normalement, je connais le chemin par cœur. Je l'ai déjà fait 3600 fois depuis que je vais à Saint-Is, dans le car jaune de ramassage scolaire. Dans le bus numéro 45, j'ai trouvé une place libre, deux sièges derrière celui du chauffeur. Ça, c'est bien. J'ai l'impression d'être derrière Monsieur Albert. Et ça me rassure un peu. Ce qui m'énerve, par contre, c'est que je ne reconnais rien de rien. Au début, c'était comme les matins normaux. Il y a eu la poste avec son mur tagué, puis le feu rouge à côté du magasin de la fleuriste, celui où il faut compter jusqu'à 17 pour qu'il passe au vert. Mais ensuite, après le deuxième arrêt, le monde a commencé à tourner dans le mauvais sens. Et je n'ai plus rien rencontré de connu. Et ça... Oh, ça m'énerve. Pourquoi ils changent tout aujourd'hui? Les horaires, les habitudes, l'écart qu'il faut prendre, la place des choses dans la rue? Pourquoi les réveils oublient de sonner? Pourquoi les taxis n'arrivent pas? Si après ça, les gens ne se retrouvent pas pendus par les pieds et la tête en bas pour le reste de leur vie... Nous arrivons au sixième arrêt. Et toujours rien de connu. Mais... Je vois de plus en plus de monde, des gens partout, qui marchent, qui courent, se croisent et se bousculent sans se regarder. Des voitures aussi, beaucoup, de plus en plus. Elles se collent les unes à l'arrière des autres et font comme un grand serpent ou une farandole. Avant le septième arrêt, notre bus vient embrasser le derrière d'une voiture blanche et se retrouve immobilisé à son tour. Le bruit augmente, les klaxons klaxonnent et les râleurs râlent. Je commence à avoir un mal de tête terrible. Et pour dire la vérité, je m'affole un petit peu. Soudain, sans que je sache vraiment pourquoi, je m'entends crier « Plus vite, chauffeur, plus vite !» Et là, je comprends que j'ai dit une bêtise. Parce que tous les gens présents dans le bus m'observent avec des têtes de sardines. Je réalise que je ne suis pas avec mes copains de Saint-Is. Non. Aujourd'hui, je suis dans la vraie vie. Enfin, celle des gens ordinaires. Et dans leur vie à eux, les gens ordinaires font des têtes de sardines lorsqu'ils voient un garçon se tortiller dans tous les sens et crier au chauffeur du bus de rouler plus vite alors que le bus est bloqué dans un embouteillage. Oh, je fais en devenant aussi rouge qu'une tomate bien mûre. Je profite de l'arrêt suivant pour m'éclipser pas très discrètement. Encore sous le coup de l'émotion, je manque m'étaler en descendant de mon siège, puis je me prends en pleine figure la barre du couloir. Les bouches de sardines s'élargissent un peu plus, à croire qu'elles n'ont jamais rien vu d'autre que des gens ordinaires. Personne ne pense à m'aider. Et d'abord, je n'en veux pas de leur aide. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Enfin, je crois... Le bus repart et je reste seule sur le trottoir. Je regarde autour de moi et oh, je ne reconnais rien. Ça m'énerve beaucoup. Et ça m'inquiète aussi. La chaîne téléphonique. Monsieur Fréra, le directeur du centre Saint-Is, attend Benjamin devant la porte de l'école. Le taxi n'arrive pas. Monsieur Fréra téléphone à Monsieur Dagrier, le père de Benjamin. Monsieur Dagrier téléphone à Monsieur Monantis, le patron de la compagnie de taxi. Il lui dit que le taxi de Benjamin n'est pas arrivé à l'école. Monsieur Monantis explique que le taxi a eu un accident. Monsieur Dagrier appelle ensuite une voisine. Il lui demande si Benjamin est encore sur le trottoir. La rue est vide. Monsieur Dagrier appelle sa femme. Il lui raconte l'accident de taxi et la disparition de Benjamin. Il décide